TDI.
Alain Benoît.
Regarde, les hommes changés. Bonjour Alain Benoît, vous êtes écrivain, penseur et théoricien de la nouvelle droite. Vous avez eu 64 ans hier et cela fait plus de 30 ans que vous occupez une place à part dans la vie intellectuelle, en France comme en Europe, hein, on vous dit. Alors, vous n'êtes ni nationaliste ni marxiste et pourtant vos idées se sont diffusées à la fois à droite et à gauche. On ne sait plus très bien d'ailleurs aujourd'hui si vous êtes de droite ou de gauche, on ne sait plus où vous classez. On vous dit très influent, bien qu'on vous voit ou on ne vous entend jamais dans les médias. Vous avez été beaucoup combattu à travers des livres et des articles. Vous-même avez publié une trentaine de livres, mais on n'en fait jamais état. On publie vos droits de réponse dans les journaux, mais jamais vos interviews. Alors, est-ce que vous vous cachez ?
Je ne me cache pas du tout. Je suis peut-être un peu ostracisé, mais il y a quand même de belles exceptions et vous êtes bien placé pour le savoir. La raison, ben je crois que la raison, faut la poser à ceux qui ne m'invitent pas ou qui ne m'invitent peu ou qui parlent peu ou pas de mes livres. Cela dit, cela ne m'empêche pas d'aller mon chemin en sifflotant de manière indépendante, tant en France qu'à l'étranger. Disons pour faire bref que je suis un intellectuel indépendant qui depuis bientôt un demi-siècle publie livres et articles, n'appartient à aucun parti ou mouvement politique et essaye de penser par lui-même, ce qui à notre époque devient peut-être un peu rare.
Vous avez publié, je le disais, une trentaine de livres, on va en citer quelques-uns. Vue de droite, comment peut-on être païen, démocratie, le problème, l'éclipse du sacré, Europe tiers-monde, même combat. Votre dernier livre qui vient de paraître s'intitule Demain, la décroissance, penser l'écologie jusqu'au bout. On en reparlera à la fin de cette émission. Vous êtes un intellectuel engagé, Alain de Benoît.
Je suis un intellectuel tout à fait engagé, car un intellectuel, par définition, est engagé. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel ? C'est quelqu'un qui essaye d'analyser et de comprendre le moment historique qu'il vit, l'époque où il se trouve, et si possible, qui essaye de déceler un peu les signes avant-coureurs de ce qui va se passer demain ou après-demain. Et cet engagement-là est tout à fait normal. Mais un intellectuel engagé, c'est tout autre chose qu'un intellectuel militant, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire, comme souvent d'ailleurs les hommes politiques, des choses qu'ils ne pensent pas forcément, parce que ça rentre dans sa stratégie. Un intellectuel, lui, il est forcé de dire ce qu'il pense, parce qu'il n'a pas d'autre finalité, pas d'autre objectif finalement, que de publier et de faire connaître ses analyses.
Alors, ce qui vous a toujours intéressé, Alain de Benoît, ça n'est pas la politique politicienne, disiez-vous, mais la métapolitique. Hein. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que la métapolitique.
Bon, en deux mots, c'est simple. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, effectivement, c'est pas la politique au jour le jour, c'est la philosophie politique, c'est l'histoire des idées, c'est l'évolution des systèmes de valeurs, des mentalités qui sont à l'œuvre dans les sociétés et dont la petite politique, entre guillemets, est un lointain prolongement de temps en temps. Disons que je me situe en aval de ce jeu politicien auquel je peux prêter parfois attention, mais qui ne mobilise pas toutes mes ressources intellectuelles, loin de là.
La grande figure de la métapolitique de gauche, c'était Antonio Gramsci, un théoricien italien du Parti communiste. La métapolitique, ça consiste à prendre le pouvoir culturel avant de prendre le pouvoir politique. C'est l'art de la propagande, on pourrait dire.
Je dirais pas tout à fait cela. D'abord, ceux qui prennent le pouvoir culturel sont rarement ceux qui prennent le pouvoir politique. Et quand c'est les mêmes, en général, ça finit très mal.
Non, mais ce sont des idées qui se diffusent.
Oui.
Les idées de gauche se sont diffusées longtemps en France avant que la gauche arrive au pouvoir.
C'est tout à fait exact. Cela dit, c'est pas très original. Je veux dire, un auteur, a priori, il écrit avec l'espoir d'être un petit peu lu. Et un théoricien s'exprime dans l'espoir d'exercer plus ou moins d'influence. En cela, il ne se distingue pas de la plupart des activités humaines. Disons que moi j'ai surtout réagi contre les monopoles. Quand j'étais étudiant, il y avait un monopole de la pensée marxiste à l'université contre lequel j'ai réagi. Aujourd'hui, le monopole est de l'autre côté. Le balancier a changé. Aujourd'hui, c'est la pensée libérale qui domine le monde. Eh bien, je me bats aussi contre ce monopole-là.
Alors, vous avez, au moment où la gauche a eu l'air de perdre un peu de poids dans la partie de poker idéologique, on va dire à la fin des années 70, début des années 80, c'est un peu la fin de l'idéologie de progrès, c'est aussi la fin de l'image plutôt bonne qu'on avait du totalitarisme soviétique, à ce moment-là, on a l'impression que la droite peut incarner une alternative culturelle. C'est là où vous, tout à coup, on commence à parler de vous, en particulier avec un livre qui s'appelle « Vue de droite ».
Oui, c'est exact, mais « Vue de droite » est un livre qui avait cette particularité que, dès la première page, je disais « Les idées que je défends aujourd'hui sont peut-être provisoirement à droite, mais je peux très bien imaginer que le paysage intellectuel se modifie de telle sorte qu'elles deviennent à gauche. C'est pas mes idées qui auraient changé, c'est le paysage. »
C'est ce qui est arrivé à votre avis ?
Et finalement, je trouve que c'est en effet tout ce qui est arrivé. Pour prendre une boutade facile, peut-être, je serais tenté de me définir aujourd'hui comme quelqu'un qui a des idées de gauche et des valeurs de droite.
Est-ce que vous pensez que les valeurs de droite sont les bonnes valeurs pour régénérer cette pensée de gauche dont tout le monde a l'air de dire aujourd'hui qu'elle est en panne et ce serait à l'origine de la plupart des problèmes du Parti Socialiste face...
Je ne sais pas, ce que je crois, c'est qu'il y a actuellement, on est dans une période de transition où les familles politiques ont le plus grand mal à redéfinir leur identité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être de gauche pour un homme de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être de droite pour un homme de droite? Il y a eu dans l'histoire tellement de droite et de gauche différentes que finalement la question mérite d'être posée. Mais incontestablement, on est actuellement dans un moment de crise profonde des identités politiques.
La seule époque, Alain de Benoist, où vous avez eu une vitrine sur le grand public, c'était à la fin des années 70 dans le Figaro Magazine, à l'époque propriété de Robert Hersant et dirigé par Louis Powells. Vous avez même un titre, je crois que vous êtes rédacteur en chef.
Non, j'avais pas de titre, mais enfin
j'étais très influent.
On a dit
à l'époque que c'était devenu l'organe de la Nouvelle Droite, le Figaro Magazine, elle était très combattue.
Seul l'a été dans une certaine mesure, car Louis Powells, qui était le principal animateur du titre, avait une sympathie non dissimulée, d'ailleurs, pour les idées de ce qu'on appelait alors la Nouvelle Droite, étiquette vis-à-vis de laquelle j'ai pris pas mal mes distances depuis, parce que je la trouve au fond très équivoque. C'est aussi l'époque, il faut bien le dire, où le Figaro Magazine a le mieux marché. On avait frôlé le million d'exemplaires. Et il est clair qu'à ce moment-là, ça déchaîne un certain nombre d'envies, de jalousies, de critiques, qui ont débouché très concrètement durant l'été de 1979 sur ce qu'on a appelé l'été de la Nouvelle Droite, avec quantité de d'émissions, de radio, de télé, d'articles, de livres, etc. Bon, tout ça est un petit peu dans le lointain, mais ce n'est quand même pas la seule visibilité que j'ai pu avoir. J'ai toujours gardé dans différents organes de presse une certaine visibilité. J'ai collaboré longtemps à Valeurs Actuelles, au Spectacle du Monde, à l'époque de Raymond Bourgine. Aujourd'hui, j'écris dans Quotidien Italien, dans des hebdomadaires allemands. Mais effectivement, de ce point de vue-là, la roue a un petit peu tourné. Ce qui n'a pas du tout ralenti mon effort pour ce qui est de la publication de livres, d'articles, de publication de revues, etc.
Ça n'a jamais été très clair la raison pour laquelle le Figaro Magazine a cessé d'être la vitrine de la Nouvelle Droite à l'époque. On a dit que c'était parce que Louis Powells, qui partageait avec vous un certain nombre de valeurs païennes, hein, puisque vous avez vous-même écrit un livre « Comment peut-on être païen ?», on a toujours dit de vous que vous étiez païen. Louis Powells, on disait la même chose, et puis il est devenu chrétien. Est-ce que ce serait l'origine du fait que du jour au lendemain vous êtes retrouvé relégué à la rubrique vidéo, ou est-ce que c'est parce que le Figaro Magazine, qui est un journal très cher, a eu de plus en plus de mal à trouver de la publicité en dépit de ses bonnes ventes?
Je pense
et que c'était à cause de la Nouvelle Droite.
Je pense qu'il y a eu un petit peu de tout cela. Il y a certainement eu des pressions publicitaires à l'époque. Mais d'autre part, un facteur déterminant, vous le disiez indirectement, a été l'évolution personnelle de Louis Powells. C'est pas simplement le fait qu'il est devenu chrétien. Je veux dire, je suis entouré d'amis chrétiens. C'est simplement le fait qu'il s'est rallié à ce moment-là à une droite libérale avec laquelle j'étais fondamentalement en désaccord. Et pour moi, taire les sentiments que m'inspirait la montée de cette droite libérale, c'était l'époque de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan, et qui valait un peu à me demander d'arrêter de respirer. Donc j'ai repris, comme par devant, ma liberté intellectuelle.
Est-ce que vous avez changé au cours de votre parcours intellectuel, Alain de Benoist ? C'est Pierre-André Taguieff qui a consacré un livre à la Nouvelle Droite en 1994. Il a d'ailleurs été accusé de complaisance à votre écart parce qu'il disait que vous aviez changé.
Pierre-André Taguieff, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, bien sûr, avait néanmoins un très grand mérite. C'est que contrairement à ceux qui parlent selon des on-dit, c'est qu'il lisait les textes. Et donc, il a pu s'apercevoir que au cours de 30, 40 ans ou plus d'activité intellectuelle, il y a des évolutions qui se produisent. Heureusement, heureusement qu'il y a des évolutions qui se produisent, sinon ce sont les esprits dogmatiques qui n'évoluent pas. Donc j'ai eu effectivement mon évolution, comme d'ailleurs Taguieff a eu la sienne, faut pas l'oublier, et aujourd'hui je me retrouve très à l'écart des courants à la mode, et encore une fois très très loin de tout ce libéralisme qui s'engouffre dans le monde économique, politique et aussi intellectuel, notamment mais pas seulement depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy.
Alors ici, on ne se contente pas des on-dit, Alain de Benoît, donc on va vous poser directement les questions. Par exemple, êtes-vous toujours païen ?
Oui, bien entendu, mais encore faut-il savoir ce qu'on appelle païen.
On vous soupçonnait de participer à des fêtes du gui habillé en druide.
Non, je ne me reconnais pas du tout dans les innombrables sectes, groupuscules, qui dansent en rond, assis en robe blanche, n'est-ce pas ? L'ordre du temple solaire, c'est pas du tout ma tasse de thé, pas plus d'ailleurs qu'une secte. Non, c'est simplement une certaine sympathie pour la pensée de l'Antiquité. Disons que je me sens plus à l'aise quand je lis Homère ou Aristote que lorsque je lis Saint Thomas ou Saint Augustin. Voilà.
Vous voulez dire que on était plus tolérant à l'époque du paganisme, plutôt qu'on l'est devenu par la suite avec les monothéismes?
Ben, le mono, c'est toujours un peu inquiétant. La pensée unique, c'est du mono. Le monothéisme, c'est un seul Dieu. Il est certain que lorsque l'on croit une vérité unique, absolue, qu'on révère un seul Dieu, ben, on n'est pas tellement porté, on le voit bien aujourd'hui encore, à admettre une certaine diversité, une pluralité d'opinions. L'avantage du polythéisme, auquel on peut reprocher d'autres choses sans doute, c'est qu'il est dans le poly, hein, c'est-à-dire qu'il admet par principe la diversité, il ne cherche pas à la réduire à l'unique. Et le fait que les différents peuples, les différents systèmes de croyance en particulier, n'est pas du tout pour lui un élément de perturbation ou de scandale, mais au contraire, le confirme dans ce qu'il pense intuitivement.
Vous avez écrit un livre intitulé « La démocratie, le problème ». Alors, quel est le problème de la démocratie ? Vous qu'on a, encore une fois, je le disais tout à l'heure, soupçonné de fournir des idées au totalitarisme.
Alors ça, je dois dire que c'est assez rigolo, si je peux employer ce terme, mais au fond, c'est le terme qui convient. Parce que je suis quand même quelqu'un qui a publié 3 livres contre le racisme, un livre contre le totalitarisme sous ses deux formes staliniennes et nazies, et ce petit livre sur la démocratie qui est un manifeste pour non pas moins de démocratie, mais au contraire plus de démocratie. Dans ce petit livre, je dis que le caractère essentiel de la démocratie, c'est que c'est un régime qui offre au plus grand nombre, à l'ensemble des citoyens, la possibilité de participer aux affaires publiques. Or, je pense, comme d'autres d'ailleurs, qu'aujourd'hui, le grand drame des processus démocratiques, c'est qu'ils deviennent de plus en plus formels et que la participation à la sphère publique, c'est-à-dire l'apprentissage de la citoyenneté depuis les cellules de base de la famille, de la région, de la commune, etc., perd de plus en plus d'importance.
Et avec le capitalisme, alors quel problème avez-vous ?
J'ai un problème de rejet spontané, si vous voulez, mais enfin qui depuis...
C'est irrationnel, vous voulez
qui
dire.
Qui a depuis a cessé d'être spontané pour devenir tout à fait argumenté. Je pense que le capitalisme, dont je ne conteste pas du tout l'efficacité pour ce qui est de produire un certain nombre de biens et de services, fait payer cette efficacité d'une déformation d'esprit. Je dirais que le système capitaliste va très au-delà de la simple économie, qu'il a également une portée morale et symbolique. Il est porteur d'un certain modèle de type humain, je dirais l'homme consommateur et producteur qui est toujours rationnellement à la recherche de son meilleur intérêt, pour reprendre la définition canonique qu'en donnait Adam Smith et d'autres auteurs libéraux. Avec le capitalisme, nous voyons la submersion du politique par l'économique, nous voyons déferler les valeurs marchandes et la transformation de la planète en une sorte de gigantesque marché. Et je pense que c'est là une déformation totale de l'imaginaire symbolique, des aspirations humaines, qui ne se ramènent pas à la recherche d'objets matériels et du dernier gadget à la mode. Je ne suis pas marxiste, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, mais j'ai lu attentivement Marx, et je sais qu'il y a aussi certaines choses chez lui qui méritent tout à fait d'être considéré avec attention, et en particulier ce qu'il écrit sur la réification des rapports sociaux, terme un peu barbare. La réification, c'est tout simplement la chosification, la transformation en choses inanimées ou en objets de personnes vivantes. Et Marx observait que l'économie capitaliste entraîne une telle chosification dans les rapports sociaux, c'est-à-dire que les individus se considèrent de plus en plus comme des objets. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre cette observation en relation avec tout ce qui se dit ou s'écrit aujourd'hui à propos de la déliaison sociale, de la perte de la substance organique du tissu social, de la solitude de masse, de l'anonymat des grandes sociétés modernes ou postmodernes. Et il y a là, je pense, tout un champ d'investigation pour la réflexion qui mérite d'être très largement exploité.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez écrit un livre, enfin deux livres même, contre le totalitarisme et en particulier un contre le nazisme. Pour autant, vous avez consacré récemment un livre à Carl Schmitt. On sait que, oui, à la fois vous dites souvent heideggerien. Oui. On sait depuis quelques années maintenant que Heidegger a été membre du parti nazi. Mmh. Carl Schmitt est considéré comme un des penseurs du nazisme. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant chez Carl Schmitt? Est-ce qu'on l'a bien compris d'après vous, Carl Schmitt?
Je pense que les spécialistes des études schmittiennes l'ont très bien compris, mais que ceux qui lui font un mauvais procès d'intention ne l'ont pas du tout compris. L'adhésion très regrettable et très condamnable de Schmitt pendant une brève période, 3 ans, au nazisme, à peu près comme Heidegger, pas pour des raisons d'ailleurs tout à fait similaires, mais a été suivi très vite d'une prise de conscience. Mais ce qui me paraît surtout important, c'est que au-delà de cette faute, dont on peut trouver facilement l'équivalent dans tous ceux qui ont cru au stalinisme et qu'on ne met pas en devoir de battre leur coulpe aujourd'hui, l'œuvre de Carl Schmitt ne reflète absolument pas, contrairement à ce qui a pu être dit, ce bref engagement. Je dirais même qu'à titre personnel, c'est dans la lecture de Schmitt et de Heidegger que j'ai trouvé peut-être les meilleures raisons de combattre les idées nazies et de démonter l'appareil idéologique du nazisme. Je dirais simplement que je veux pas faire un exposé magistral sur l'œuvre de Carl Schmitt, qu'il faut tout simplement le lire. Si Carl Schmitt a exercé autant d'influence et continue d'en exercer autant dans tous les milieux, de même d'ailleurs que Heidegger, évidemment ce n'est pas en raison de cette maladresse, de cette faute de leur itinéraire. Mais j'ajouterais d'ailleurs que peut-être c'est le fait d'avoir côtoyé le mal ou la maladie qui les a le mieux amenés à formuler ce que peut être une doctrine de santé.
Alors, pour en finir avec le passé, Alain de Benoist, est-ce qu'il y a eu une préhistoire d'Alain de Benoist? Est-ce que vous avez appartenu dans les années 60, vous en aviez l'âge, à cette extrême droite qu'on voyait souvent à la sortie des lycées, en treillis, le crâne rasé, distribuant des tracts antisémites,
dire...
racistes
Non, je peux vous dire que, je n'ai jamais distribué des tracts antisémites, que je n'ai jamais porté le treillis et les crânes rasés, mais quand j'avais très jeune, quand j'avais 16 ans, dans le contexte de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, qui a quand même été une grande épreuve pour notre génération, j'ai milité dans des mouvements étudiants d'extrême droite entre décembre 1961 et 1965, après quoi j'ai décidé de tracer un trait définitif sur cet engagement, et je n'ai plus de rapport avec cette famille d'esprit qui est très loin de mes préoccupations actuelles, bien entendu.
Alors, après mai 68, vous allez créer Nouvelle École. On en parle encore aujourd'hui de Nouvelle École. À ce moment-là, on a dit que vous vous passionniez pour la sociobiologie d'Edmund Wilson en particulier. Edmund Wilson est très peu connu en France, c'est un grand scientifique, mais on l'a accusé d'eugénisme, quasiment de nazisme, après son travail sur les fourmis. Alors, qu'en est-il exactement?
Alors, Wilson est un homme de gauche, qui est effectivement un grand spécialiste de la biologie et qui a fondé ce qu'on a appelé la sociobiologie. Bon, les critiques qui ont été portées contre la sociobiologie sont en partie exactes, fondées, à mon avis, en partie très exagérées. Wilson, en particulier, ne s'est jamais prononcé pour l'eugénisme, c'est pas du tout de son ressort. La revue Nouvelle École, qui existe toujours, je l'ai fondée avant 1068 en réalité, et pas après. Le premier numéro est paru en février 68. Donc vous voyez, il y a une sorte de coïncidence, de génération, mais pas d'effet de causalité. Il faut se souvenir que c'est l'époque où Jacques Mounod recevait le prix Nobel, ou Konrad Lorenz, pour ses travaux sur l'éthologie,
sur les oies,
recevait le prix Nobel, et il y a eu une sorte d'explosion des sciences de la vie, d'une manière générale. Ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai eu le sentiment, qui je crois n'a pas été infirmé depuis, que les sciences de la vie allaient remplacer la physique comme la reine des sciences. Et finalement, c'est très exactement ce qui s'est passé lorsque l'on voit l'essor des biotechnologies, les réflexions engagées par les comités de bioéthique et ce genre d'organismes. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui explique l'homme fondamentalement par les facteurs biologiques. Ils existent de toute évidence, mais pour moi, ce qui est spécifique à l'espèce humaine par rapport à tous les autres animaux, ce sont les éléments d'ordre social historique, sociaux et culturels, définissent son mode particulier de présence au monde.
Vous savez bien, Alain de Benoist, que dès l'instant où on compare les comportements humains avec les comportements des animaux, tout à coup on a l'impression d'une régression et on s'en méfie, on en a peur.
Je ne crois pas du tout qu'il faut en avoir peur, simplement il faut savoir que ces comparaisons ne sont fondées que jusqu'à un certain point. Il est évident que nous sommes des animaux, nous ne sommes pas que des animaux. Konrad Lorenz, le prix Nobel d'éthologie auquel je faisais allusion tout à l'heure, m'avait reçu il y a fort longtemps de cela, chez lui, en Autriche, et il m'avait dit une phrase qui est tout à fait juste et tout à fait simple. Il me disait, si vous dites que nous sommes des animaux, vous avez raison, mais si vous dites que nous ne sommes que des animaux, alors vous avez tort. Mais finalement, c'est à cette leçon que je m'en suis tenu.
Alain de Benoist arrive dans les années 70, qu'on a appelé la création de la nouvelle droite, hein, une étiquette dont vous disiez tout à l'heure que vous ne la partagiez plus tout à fait. Et avec la nouvelle droite, c'est la création du magazine Élément, sous-titré Pour la civilisation européenne. Vous devenez à l'époque, en tout cas c'est comme ça qu'on vous voit, le champion du différentialisme culturel. Pour vous, chaque groupe humain suscite ses propres valeurs culturelles et elles sont irréductibles à celles des autres. Vous n'êtes pas du tout contre le métissage racial, dites-vous, mais contre le métissage culturel. À quoi vos adversaires diront que c'est exactement la même chose. Si on ne peut pas mélanger les cultures, on ne peut évidemment pas mélanger les races.
Non, c'est pas du tout la façon dont je vois les choses sur ce plan. 1970, bon, les nouvelles droites, si je prends mes distances vis-à-vis de cette expression, c'est tout simplement que ça n'a jamais été une auto-désignation. On n'a jamais dit « on est la nouvelle droite ». Il y a eu un certain nombre de journaux, d'émissions, etc., qui ont dit « voilà, c'est une nouvelle droite ». Et puis l'étiquette est restée, et comme je vous le disais tout à l'heure, je la trouve un petit peu équivoque, parce que ça reste une coloration que je trouve tout à fait obsolète et très datée. Et alors le différentialisme, c'est tout simplement, je dirais, un discours anticolonial. C'est un discours qui constate que l'Occident, au cours de son histoire, n'a cessé de vouloir universaliser son système de valeurs, ses idées, sa façon de voir le monde, à partir de l'idée que, finalement, si c'était bon pour l'Occident, c'était bon pour le reste des hommes, que les individus, les cultures étaient toutes les mêmes, et que ça serait encore mieux si on pouvait les rendre encore plus pareils. C'est ce que j'ai appelé la montée de l'idéologie du même. Bien, moi, je crois que l'humanité n'est riche que de ses différences, que de sa diversité, et que ce qui fait que l'on a plaisir à se déplacer dans le monde, c'est de voir des cultures, des peuples différents qui ne vivent pas exactement de la même manière, même si aujourd'hui, un vaste mouvement d'homogénéisation dans la foulée de la mondialisation tend à réduire ces différences. Ce n'est pas du tout une mise en garde contre les rencontres, les échanges, les dialogues. Aujourd'hui, on utilise le mot métissage, je trouve, un petit peu pour désigner n'importe quoi. Je suis tout à fait favorable, non pas du tout au chacun chez soi, non pas à l'apartheid, au contraire à l'échange et au dialogue, mais pour qu'il y ait échange, il faut encore qu'il y ait quelque chose à échanger. Si je suis le même, vous êtes le même, et nous n'avons à nous échanger que le même, l'échange n'ira pas bien loin. Donc, je pense qu'il faut à la fois avoir une identité, une personnalité, des caractéristiques propres, et puis ensuite les mettre en jeu dans le libre-échange des cultures. Donc le différentialisme culturel, c'est une protestation contre tous ces courants religieux ou profanes qui, au cours de l'histoire, ont affirmé dans des formulations variées que ce serait mieux, au fond, si on réduisait la diversité des croyances, la diversité des cultures, la diversité des formes artistiques, culturelles et autres, pour arriver à une société dans laquelle tout le monde serait pareil. Je pense que ce serait une société très ennuyeuse et qu'il y a en chacun de nous une protestation spontanée contre la disparition de la diversité.
Quand vous dites que vous êtes contre le colonialisme, est-ce que ça veut dire que vous êtes contre l'universalisme, donc celui du monothéisme, mais aussi celui des droits de l'homme? Par exemple.
Je suis contre l'universalisme politique, c'est-à-dire que je décèle derrière la plupart des courants ou des discours universalistes, bien souvent, un ethnocentrisme caché, et parfois même un certain racisme, il faut bien le dire. Le problème des droits de l'homme est un problème délicat, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, on est dans une société tellement dominée par le discours des droits de l'homme que des auteurs comme Marcel Gauchet, Régis Debré ont pu parler de religion des droits de l'homme. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, je suis tout à fait pour la défense des libertés. La défense des libertés, pour moi, c'est un problème politique. Ça signifie que les libertés politiques doivent être défendues politiquement. Ma critique vis-à-vis de l'idéologie des droits de l'homme, c'est que c'est une idéologie à la fois juridique et morale que je trouve peu adaptée à régler des problèmes politiques, par définition, et dont je vois bien par ailleurs qu'elle est née à une certaine époque, dans un certain endroit, toujours la culture occidentale, qu'elle repose sur des valeurs qui sont en partie des valeurs purement occidentales, je pense notamment à l'individualisme qui est tout à fait étranger à la plupart des cultures du tiers-monde, et je pense pas, effectivement, que j'ai écrit un petit livre là-dessus, que cette idéologie des droits de l'homme soit le meilleur outil pour défendre concrètement les libertés dont toute société démocratique et pluraliste a besoin, et dans ce livre, je donnais justement d'autres orientations permettant de mieux défendre, de façon plus sûre, ces libertés.
Alors, vous êtes devenu le défenseur du droit des peuples, hein, à la fois dans Élément et dans ce qu'on appelait la Nouvelle Droite. Alain de Benoît, vous avez écrit un livre « Europe et tiers-monde, même combat », c'était contre l'américanisation du monde. C'est sans doute là où vous avez séduit à la fois une partie de la gauche, souverainiste par exemple, et l'extrême-gauche, comme une partie de la droite. Et pour autant, vous avez toujours combattu le Front National, par exemple.
Ce n'est pas que je l'ai combattu, je ne me suis tout simplement pas reconnu dans les thèses, les idées de ce parti, thèses qui, d'ailleurs, il faut bien le dire, ont aussi évolué, parfois de manière assez sensible. Rappelez-vous l'époque où Jean-Marie Le Pen se présentait comme le Ronald Reagan français, par exemple. Non, je ne me suis jamais reconnu dans ce parti. Je l'ai dit toujours, je l'ai dit très clairement, je l'ai dit honnêtement. Pour autant, je n'ai pas participé de la diabolisation, à mes yeux tout à fait ridicule, du Front National, comme une espèce de renaissance du fascisme qui allait instaurer des camps de concentration en France. Je n'ai jamais cru une minute.
Vous aviez dit quand même que vous étiez écœuré par leur logique du bouc émissaire, de la façon dont ils excluaient les immigrés.
C'est tout à fait autre chose. J'ai dit en effet que dans une formule polémique, que j'étais un peu écœuré par cette façon dont un tel discours pouvait prendre le problème de l'immigration comme prétexte à expliquer tous les maux, finalement, dont souffrait la société française. Je me rappelle avoir dit à l'époque que s'il n'y avait pas un seul immigré en France, nous aurions quand même à faire face à de très grandes difficultés. L'immigration, je la considère, comme la plupart des gens, comme un problème spécifique qui engendrait un certain nombre de pathologies sociales, mais pour autant, je suis tout à fait hostile à cette mentalité d'exclusion, n'est-ce pas, qui prend l'autre systématiquement comme un bouc émissaire. J'essaye d'avoir sur la question un point de vue équilibré.
Vous avez été un des premiers à travailler sur la culture, on l'a dit, sur l'identité. C'est devenu une obsession aujourd'hui, l'identité. Alors, quel est l'avis d'Alain de Benoît sur les musulmans qui vivent en France et qui sont français, à qui on reproche d'avoir conservé cette identité musulmane. Que pensez-vous des juifs qui sont aujourd'hui en France et qui parfois, pour un certain nombre d'entre eux, retrouvent une identité très religieuse, ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme? Vous devez être d'accord, puisque vous êtes pour que tout le monde conserve sa culture.
Alors là, on est en train de faire le tour express de tous les sujets brûlants. Alors, je reviens une seconde en arrière à propos du droit des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas nouveau. À l'époque des luttes anticoloniales, c'était le principe au nom duquel on a développé l'anticolonialisme. Donc, en argumentant moi-même à partir de cette formule, je reste tout à fait dans cette logique qui nous renvoie à ce que j'indiquais tout à l'heure à propos de la diversité des peuples et des cultures. Le communautarisme, c'est un peu autre chose. Aujourd'hui, c'est devenu un mot passe-partout qu'on utilise d'une manière exclusivement péjorative. Vous avez pu remarquer comme moi que quand on dit que le communautarisme, généralement, ça sous-entend des choses abominables. Moi, je dirais que je suis tout à fait hostile à un communautarisme qui consisterait à créer à l'intérieur de la société française des enclaves, en quelque sorte, fermées sur elles-mêmes, qui ne communiqueraient pas entre elles. Je veux dire par là que je crois très profondément à la nécessité d'une loi commune et qui vaille, bien entendu, pour toutes les communautés. Mais en même temps, je pense que la France a été beaucoup trop marquée depuis l'Ancien Régime et en passant par la Révolution jusqu'à nos jours, toutes tendances politiques confondues, par une tendance au jacobinisme. Et le jacobinisme, au fond, finalement, dans l'ordre politique, ce n'est que l'idéologie du même dont je parlais tout à l'heure. Le jacobinisme en France a consisté à dire à des Français venus de différents horizons, ayant des croyances différentes, participant de cultures régionales variées, vos particularités, vous les gardez pour vous, c'est-à-dire que vous les rabattez sur la sphère privée, elles ne doivent pas apparaître dans la sphère publique. Alors, je crois que aujourd'hui, compte tenu de ce qu'a été concrètement l'immigration numériquement, l'arrivée rapide sur le territoire français de communautés, ce sont des communautés qui ont des particularités très fortes, on ne peut pas les nier ou faire comme si elles n'existaient pas. Par conséquent, je suis favorable à ce que, à l'intérieur, je le souligne, à l'intérieur de cette loi commune dont je parlais tout à l'heure, on examine les particularités qui ne sont pas incompatibles avec la loi commune, qui ne portent pas atteinte à l'ordre public. Et pour prendre un exemple d'une polémique récurrente en France, je ne trouve pas personnellement que le port pour une jeune fille, si elle le fait volontairement bien sûr, d'un voile couvrant ses cheveux, me paraît pas une atteinte absolument abominable à l'ordre public. Donc je pense qu'il faut à la fois plus de tolérance, mais en même temps, incontestablement, il y a une loi commune qui doit être respectée. Vous me parliez de la communauté juive, eh bien je trouve que la communauté juive, qui n'a jamais abandonné le terme de communauté d'ailleurs, sans pour autant qu'on l'accuse de communautarisme, me paraît un très bel exemple d'intégration réussie. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que ce n'est pas une communauté qui est intégrée dans notre vie nationale, et en même temps, elle n'a pas payé cette intégration du prix d'une assimilation qui lui aurait fait perdre son identité. Nous en arrivons donc à la notion d'identité dont vous parliez tout à l'heure, et qui, à mon sens, devient en effet aujourd'hui la grande préoccupation. On pourrait dire historiquement, les gens se sont souciés d'abord de la liberté, puis de l'égalité, et qu'aujourd'hui, c'est l'identité qui les mobilise, identité de toutes sortes, identité linguistique, culturelle, ethnique, religieuse, sexuelle et autres. Pourquoi cette montée de la problématique de l'identité, à laquelle j'ai aussi consacré un petit livre qui s'intitule « Nous et les autres » ? Eh bien, parce que je crois que jamais comme aujourd'hui, la montée de l'indistinction n'a été aussi forte. Jamais le vaste mouvement d'homogénéisation de la planète induit par la mondialisation n'a été aussi grand. Et pour faire une réflexion que tout le monde utilise, les repères se perdent. À partir du moment où les repères se perdent, où les grandes institutions qui constituaient dans le passé autant de creusets d'intégration, famille, école, armée, syndicats, partis politiques, églises, sont tous plus ou moins en crise, ressurgissent les questions ultimes, les questions éternelles, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, etc. Alors, il y a plusieurs types de réponses. Il y en a que je trouve inadmissibles. Ce sont les réponses identitaires convulsives, hein, celles qui consistent à dire il y a moi, il y a nous, et puis les autres, ça ne nous intéresse pas. Les autres, à la limite, il faut les éradiquer, les faire disparaître. Moi, je pense que l'identité est fondamentalement dialogique, c'est-à-dire qu'elle se construit, qu'elle est une sorte de discours narratif qui se construit perpétuellement en relation avec l'autre. L'autre fait partie aussi de mon identité car il aide à me construire. Donc on retrouve cette idée d'échange que j'évoquais tout à l'heure, et dans ce petit bouquin, j'essaye justement de cerner à la fois les dimensions philosophiques, anthropologiques, politiques, sociologiques, psychologiques de cette problématique de l'identité qui tend aujourd'hui à animer tant de débats.
Alain Benoît, encore un sujet brûlant, vous êtes toujours sur les sujets brûlants. Votre dernier livre est consacré à l'écologie, vous l'avez intitulé « Demain la décroissance, penser l'écologie jusqu'au bout ». Alors vous partez du point de vue que la plupart des gens partagent hein, aujourd'hui, c'est que on est de plus en plus nombreux à consommer, que les ressources s'épuisent et que le développement est en train de détruire la planète. Alors la plupart des gens disent que nous sommes dans une impasse, un certain nombre attendent un miracle technologique. Vous, qu'est-ce que vous dites ?
Alors, essayons de situer ce vaste problème rapidement. Oui, vous l'avez dit, il y a une sorte de consensus aujourd'hui dans la préoccupation écologique qui est incontestablement beaucoup plus forte qu'il y a 20 ou 30 ans. Les deux grands problèmes, les pollutions de toutes sortes qui entraînent des phénomènes divers et variés, y compris les dérèglements climatiques auxquels nous sommes confrontés maintenant, et d'autre part l'épuisement de ressources naturelles, de réserves naturelles. La cause principale, c'est la croissance, c'est le développement, c'est la course en avant d'une société industrielle qui, pendant des décennies, ne s'est préoccupé ni de la préservation des cadres naturels de vie, ni de réserves naturelles qu'elle considérait comme inépuisables et gratuites, ce qu'elle n'était ni l'une ni l'autre. Où est le problème ? Où est le drame ? Ben, le problème, c'est que la préoccupation écologique ne suffit pas à nous remettre sur des voies meilleures. Je ne vais pas utiliser beaucoup de chiffres parce que ça ennuie tout le monde, je vais en donner un seul. Il est tout récent. Entre 2000 et 2005, le taux de rejet dans l'atmosphère de dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui provient des énergies, de la combustion des énergies fossiles, a progressé de 3,1% par an contre 1,1% dans les années 80, c'est-à-dire trois fois plus vite.
On dit que c'est en partie à cause des pays émergents, l'Inde ou la Chine qui se développent à leur tour.
Bien entendu, mais ça veut dire que depuis qu'on a pris tant de mesures, rappelez-vous le fameux protocole de Kyoto, au lieu que ça s'améliore, au lieu que ça se réduise, ça ne cesse d'augmenter. Et la cause principale, c'est ce qu'on appelle le rendement carbone. Qu'est-ce que c'est que le rendement carbone ? C'est la quantité de dioxyde de carbone qui doit être rejetée dans l'atmosphère pour qu'un pays obtienne un point de plus de croissance. Donc là, on est vraiment dans un rapport de cause à effet, même s'il y a quantité de polémiques autour des histoires de réchauffement climatique. Donc on est dans une situation tout à fait sérieuse. Et le problème, c'est que aujourd'hui, la plupart des autorités, des pouvoirs publics, des hommes politiques veulent concilier l'inconciliable, c'est-à-dire qu'ils affichent des préoccupations écologiques, comme tout le monde, et en même temps, ils veulent conserver le développement, la croissance, et si possible, l'intensifier, alors qu'elle est la cause majeure des choses qu'ils déplorent. Bossuet, je crois, disait plaisamment « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets tout en continuant à chérir les causes ». Eh bien, lorsque l'on voit tel homme politique signer le pacte écologique de Nicolas Hulot et organiser le Grenelle de l'environnement au moment même où il se déclare prêt à tout pour faire monter la croissance, on a véritablement l'impression de gens qui sont à la recherche, en quelque sorte, du cercle carré. Alors, les partisans de la décroissance, ceux qu'on appelle les décroissants, ce sont ceux qui disent, quand on est sûr de se fracasser sur le rocher, il suffit pas de réduire la vitesse pour que ça améliore, faut changer de cap. Et changer de cap, ça veut dire sortir d'une société fondamentalement orientée sur la course en avant, dans le productivisme, dans l'utilité matérielle, dans le calcul, dans le rendement, dans le profit, et s'orienter vers une société qui donne plus de place aux valeurs non marchandes, qui essaye de revenir à une sorte de frugalité conviviale durable. C'est la grande différence par rapport à ce qu'on appelait le développement durable, hein, qui cherche à concilier au contraire le primat de l'économie de marché avec les exigences de l'écologie.
Alain Benoît, c'est le développement industriel qui nous a permis, en Europe, dans toute l'Europe, en Occident, et pas seulement, de sortir de la pénurie. Si en France, nous sommes presque tous, aujourd'hui, presque tous, nous mangeons à notre faim, et nous sommes logés, c'est grâce au progrès, à la croissance, à ce qu'on appelait la croissance. Alors quand on parle de décroissance, on se dit, et vous avez parlé tout à l'heure de frugalité conviviale, est-ce que ça veut dire retourner à la pénurie? Est-ce que ça veut dire retourner dans les arbres?
Non, ça ne veut pas dire retourner à la pénurie, retourner dans les arbres, ça ne veut pas dire non plus arrêter l'histoire, rentrer dans la société du risque zéro et qu'on ait tout le monde à des modes de vie régressifs. Il s'agit simplement de prendre conscience que la légitimité de l'expansion industrielle et économique peut devenir folle à un certain moment. Lorsqu'elle devient une course en avant, qui n'a plus ni finalité autre qu'elle-même, qui n'est plus au service de l'homme, mais qui crée une société où c'est l'homme qui est au service de l'économie. Lorsqu'elle nous fait monter à bord, comme le dit Serge Latouche, qui est un théoricien de la décroissance, à bord d'un bolide qui va toujours plus vite, on ne sait pas où, et qui n'a ni frein ni marche arrière, il est quand même temps de réfléchir et de décélérer. Et décélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire recycler plus intensivement, arrêter les gaspillages, arrêter l'obsolescence programmée des produits, relocaliser dans la mesure du possible la production, relancer la vie locale, y compris sous ses formes démocratiques et participatives. C'est essayer de trouver un autre mode de société, parce que sinon, de toute manière, on ne va pas tellement avoir le choix lorsque l'on voit la rapidité à laquelle les choses se dégradent, tout simplement.
On nous dit que d'ici 30 ans, et vous faites partie, hein, Alain Benoît, de ceux qui nous disent que d'ici 30 ans, il va y avoir de très très gros problèmes. Un certain nombre de ressources vont s'épuiser.
Il y en aura sans doute avant. Prenez l'exemple du pétrole, c'est l'exemple le plus classique, mais en 2002, le pétrole cotait 20 dollars, je crois. Aujourd'hui, il est quasiment à 100 dollars. Et le prix va continuer...
Le baril,
oui, bien entendu. Le prix va continuer à monter. Il va continuer à monter pourquoi? Pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'on est en train d'arriver à ce qu'on appelle le pic de production, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel, la moitié environ des réserves existantes ayant déjà été consommées, l'extraction du pétrole ne pourra plus se faire qu'à rendement décroissant, c'est-à-dire à coût croissant. Et d'autre part, il va augmenter car la demande ne cesse d'être structurellement très supérieure à l'offre. Et on sait bien qu'avec les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., la demande va être énorme.
Il y en a plus assez pour tout le monde, c'est clair.
C'est-à-dire, en clair, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que lorsqu'il y a de plus en plus de demandes et de moins en moins d'offres, où ça devient si cher que ça devient insupportable, lorsque ça se répercute sur les coûts, ou alors, il faut trouver un autre procédé. L'autre procédé, aujourd'hui, c'est la recherche d'énergies alternatives, hein, mais les énergies alternatives sont très loin de couvrir les besoins et d'avoir les mêmes facilités, les mêmes avantages que le pétrole. C'est évidemment pas les éoliennes qui vont faire décoller les avions, ce n'est pas non plus le bioéthanol qui va tout résoudre, d'autant plus que le bioéthanol, par exemple, ce qui est l'éthanol, qui est l'un des principaux biocarburants dont on parle aujourd'hui, si on reconvertit des surfaces où l'on fait passer des choses utiles à manger, n'est-ce pas, pour la production. Si l'on reconvertit des cultures ouvrières, vivrières, en surface destinée à la culture de l'éthanol, nous allons avoir d'autres problèmes. Donc les catastrophes, oui, elles peuvent aller très vite. Il y a déjà eu des guerres pour le pétrole. Nous aurons sans doute des guerres de l'eau. Vous connaissez comme tout le monde le film d'Al Gore sur la montée des mers qui peut résulter de la fonte des glaciers. Il suffit de 40-50 centimètres pour qu'on ait une véritable catastrophe, hein, d'autant plus qu'il n'y a pas seulement la submersion de terres immergées, il y a aussi le fait que l'eau de mer, en pénétrant dans les terres, se mêle aux eaux souterraines, réduit la quantité d'eau potable. Je ne veux pas faire du tout le Cassandre qui annonce 1000 catastrophes, mais il ne faut pas se voiler les yeux, nous sommes devant des échéances très fortes, et qui arrive de plus en plus vite.
Justement, la réponse que font un certain nombre de gens, déjà, et c'est leur réponse à la question que vous posez, hein, penser l'écologie jusqu'au bout, c'est d'aller soit vers un totalitarisme écologique, écologiste, ou alors vers un terrorisme. Et on sait déjà qu'il y a déjà ce qu'on appelle de l'éco-terrorisme, oui. Du terrorisme écologiste.
Bah, l'éco-terrorisme, il montre que même les doctrines les plus raisonnables peuvent avoir leurs extrémistes. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire.
Mais à situation extrême, totalitarisme, on répond souvent par l'extrémisme.
Ben, c'est la raison pour laquelle, justement, il faut éviter que les catastrophes surviennent, parce que le trait commun des catastrophes, c'est qu'elles ont en général des effets catastrophiques. Hein. La théorie de l'éco-totalitarisme, moi je n'y crois pas une seconde, il est évident qu'on ne va pas forcer les gens à se comporter de telle ou telle manière, intervenir dans leur vie privée, leur fort intérieur, mais n'oubliez pas que c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire, car cette destruction des réserves naturelles, cet épuisement des ressources est fondamentalement polémogène. On risque d'aller vers des guerres de plus en plus cruelles, de plus en plus inhumaines, car lorsque les ressources se raréfient, eh bien, il y a malheureusement des états et des cultures qui sont prêts à tout pour garder le privilège de ces ressources.
Merci Alain de Benoist d'avoir été en direct cet après-midi sur Europe 1. Demain, la décroissance, penser l'écologie jusqu'au bout, c'est votre dernier livre. Il vient d'être publié aux éditions Edith. Bonne fin d'après-midi à tous. Je vous laisse en compagnie de Laurent Ruquier. Demain, on se retrouve avec Jean-Michel Jarre.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.